Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Menachot, page 89, Daf Petet. Bonne écoute et bon limoud.
Vele Avid Zahav Koldehu, peut-être que le bec des lampes serait fait en or quelconque, c'est-à-dire pas en or pur. Kamash Malan, c'est pour cela qu'il a besoin de préciser que même le bec des lampes sera fait en or pur, comme le reste du candélabre. Nous avons fini ici le shiur de Maseret Menachot Daf Pechet. Nous commençons le shiur de Maseret Menachot Daf Petet, en haut de la page, aux deux points. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Chatzilug Shemen Letoda ». Il fallait mesurer dans l'instrument de mesure qui contient un demi-loug, le demi-loug utilisé pour les pains qui accompagnent le sacrifice de remerciement. Alors, la Gemara dit là-dessus « Tanya, il est enseigné dans une braïta, Rabbi Akiva Omer, Ma Talmud Lomar Bashemen Bashemen Shne Pe'amim » Que veut dire le pasouk lorsqu'il répète à deux reprises le terme de bashemen dans l'huile? En effet, le pasouk dans Vaikra Zayin concernant les pains qui accompagnent le sacrifice de remerciement s'exprime en disant chalot matzot belulot bashemen, des pains matza mélangés avec de l'huile, ou kike matzot meshuchim bashemen, et des galettes de matza enduites avec l'huile. Le pasouk emploie donc à deux reprises le terme de bashemen. Il répond ilou lo nemar ela bashemen echad, si le pasouk n'avait employé qu'une seule fois le terme de bashemen, Haïti Omer, j'aurais dit, hareu que cholam nachot le loug, que cette offrande des pains qui accompagnent le sacrifice de remerciement est comme toutes les offrandes qui nécessitent une quantité d'un loug d'huile. Archav shekatav bashemen bashemen, maintenant qu'il a écrit deux fois le terme de bashemen dans l'huile, have ribouy achar ribouy, il y a donc une inclusion suivie d'une autre inclusion, ve'en ribouy achar ribouy el alemaet, et une inclusion suivie d'une autre inclusion, ne veut dire qu'une exclusion. Autrement dit, lorsqu'il y a deux inclusions qui se suivent, forcément, en fait, le pasouk veut au contraire exclure. Mais ato hakatuv lechatzilug, le pasouk a donc réduit la quantité d'huile à un demi-loug. La Gemara demande, ribouy achar ribouy, y a-t-il ici une inclusion suivie d'une autre inclusion? Chad ribouyhu, il n'y a qu'une seule inclusion. Car, de la manière dont s'exprime Rabbi Akiva, nous comprenons que la première fois où le pasouk emploie le terme de bashemen, c'est nécessaire pour dire que ces pains doivent être accompagnés d'huile. Le deuxième terme bashemen est en plus et exprime une inclusion. Il n'y a donc qu'une seule inclusion. Et comme l'explique le Chok Natan plus haut d'Af Tet Amud Bet, si le pasouk s'était contenté d'employer une fois le terme bashemen, on aurait compris qu'il y avait besoin de l'huile dans ces pains, mais on n'aurait pas su combien. Et c'est du deuxième terme que nous apprendrions qu'il faut une quantité d'un loug, comme pour les autres offrandes à base de farine. Donc, comment sait-on qu'il faut une quantité inférieure? La Gemara répond, et là plutôt, il faut corriger la braïta et lire ainsi. Ilou lo neemar bashemen kolikar, si le pasouk n'avait pas du tout employé le terme de bashemen de l'huile, haïti omer, j'aurais dit, harehu kechol hamnachot le loug, que ces pains sont comme toutes les autres offrandes qui nécessitent un loug d'huile. Il n'y a pas de raison que ces pains, donc, ne nécessitent pas cette même quantité d'un loug d'huile. Archav, shenemar, bashemen, bashemen, maintenant que le pasouk emploie de reprise le terme de bashemen, have ribouy achar ribouy, il y a donc une inclusion suivie d'une autre inclusion, ve'en ribouy achar ribouy ela lemaet, et une inclusion suivie d'une autre inclusion ne veut dire qu'une restriction. Autrement dit, que l'inclusion n'est pas totale, mais il y a une restriction. Miato hakatuv lechatzilug, le pasouk a voulu ainsi diminuer la quantité d'huile nécessaire à un demi-loug. Yachol yehe chatzilug ze mitralek leshloshet minim. Serait-il possible de dire que cette quantité d'un demi-loug sera partagée équitablement entre les trois sortes de pains qui accompagnent le sacrifice de remerciement? Les chalot, donc pour les pains matza, ou les rikikin, et pour les galettes, ou les rvicha, et pour le pain qui était bouillanté de l'eau avant d'être cuit et frit. Que chez où Omer, bashemen birvicha, lorsque le pasouk emploie le terme de bashemen dans l'huile concernant les pains qui sont ébouillantés, chez en Talmud Lomar, alors que ce n'est pas nécessaire, car nous savons déjà que pour ce type de pain, il faut de l'huile, car ce type de pain ébouillanté est utilisé aussi par le Kohen Gadol tous les jours, le pasouk emploie aussi le terme de mourbechet, et aussi le pasouk dit dans Vaikravav que ces pains ont besoin d'huile. Donc pourquoi est-ce que le pasouk écrit ici le terme de bashemen? C'est pourquoi nous apprenons de ce terme bashemen, riba shemen lervicha, le pasouk a voulu augmenter la dose d'huile pour ses pains ébouillantés. Haketzad, comment est-ce que nous faisons pour partager cette huile donc? La Braïta répond, Mevi chatzilug shemen, il amène un demi-loug d'huile, vechotsehu, et il le partage en deux. Chetio, la moitié de ce demi-loug, donc un quart de loug, les chalot ou les kikin, c'est pour les pains et les galettes cuits au four. Vechetio, et l'autre moitié, donc un revit entier, l'herbicha, sera utilisé pour les pains ébouillantés dans l'eau. Amarlo Rabelazar ben Azaria, Akiva. Imata marbe kola yom kulo bashemen bashemen. Même si tu répètes toute la journée ces inclusions à partir du terme de bashemen, enishome alach, je ne t'écouterai pas. Car à l'origine, lorsque le pasouk emploie deux reprises le terme de bashemen concernant les pains et les galettes, en fait, il n'y en a qu'un seul qui est en plus. Le premier est nécessaire pour nous enseigner qu'il faut de l'huile pour ces pains. Et là, plutôt, chatzilug shemen letoda, cette quantité d'un demi-loug d'huile nécessaire pour les pains qui accompagnent le sacrifice de remerciement, urvit shemen lenazir, et la quantité d'un quart de loug d'huile pour les pains qui accompagnent le sacrifice de l'abstinent. En effet, pour l'abstinent, il n'y a que les pains et les galettes et pas les pains ébouillantés dans l'eau. Et la période de 11 jours qui sépare les périodes de menstruation, c'est-à-dire Minatora, lorsque les règles apparaissent, la femme est impure, et ce, peu importe si ces règles ont duré un jour ou sept jours, au bout du septième jour, elle doit s'immerger dans un bassin de purification et elle sera pure. Cette loi ne s'applique que pour les règles normales et non pas pour les règles appelées hors cycle. Pour les règles hors cycle, il y a d'autres lois qui s'appliquent. Si les règles ont duré un jour ou deux jours, elle peut se purifier le lendemain. Si elles ont duré trois jours, elle devra observer une période de pureté pendant sept jours et seulement après cela, elle pourra se purifier. Alors, ce que la Gemara dit ici, c'est que la période minimale qui peut exister entre une période de menstruation et une autre est de 11 jours. C'est-à-dire à partir du moment où débutent les règles, peu importe leur durée, elle est impure pendant 7 jours, comme nous l'avons expliqué. Puis les 11 jours qui suivent est une période hors cycle. Si elle a des règles pendant ces 11 jours, les lois concernant les règles hors cycle s'appliqueront. Après cela, si elle a à nouveau les règles, il s'agira à nouveau de règles normales. En tout cas donc, ces trois choses, Halakha le Moshe Misinaï, ce sont des lois qui ont été transmises oralement à Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï. Ce n'est donc pas du Passouk que nous l'apprenons. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Belug hayamoded » etc. Il mesurait une quantité d'un loug d'huile pour toutes les offrandes à base de farine. Puis la Mishnah enchaîne avec une discussion entre les Chachamim et Rabbi Eliezer ben Yaakov. Selon les Chachamim, pour chaque issaron de farine, il faudra un loug d'huile. Donc s'il s'engage à offrir une offrande de plusieurs issaron, il devra y ajouter une quantité de loug d'huile équivalente au nombre de issaron qu'il a offert. Tandis que selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, jusqu'à la quantité de 60 issaron, cette offrande ne sera accompagnée que d'un seul loug. La Gemara dit là-dessus, Tanou Rabbanan, nos Chachamim ont signé dans une braïta. Bemetzora aniktiv, au sujet du lépreux pauvre, le pasouk dit dans Vaikra Yuddalet, concernant les sacrifices de purification qu'il doit offrir. Le pasouk dit qu'il offrira un mouton comme Korban Hasham, qu'il accompagnera d'eux, nous lisons selon Rashi, Bi'issaron solet echad balul bashemen lemincha velog shamen. Et un issaron de farine mélangé avec de l'huile pour une offrande et une quantité d'un loug d'huile qui sera utilisée pour les aspersions. En fait, comme la Gemara l'expliquera, ce passage est en plus lorsqu'il précise que ce sacrifice sera accompagné d'un issaron de farine. L'imed al issaron shetaun log, nous apprenons de là que chaque issaron de farine d'une offrande nécessite d'être accompagné d'un loug d'huile. Divrei Chachamim, ce sont les paroles de Chachamim. Rabbi Nechemia, nous lisons selon la Shita Mkubetzet, Rabbi Eliezer ben Yaakov omrim, Afilu mincha shel shishim esronim, même s'il offre une offrande de 60 issaron dans un seul ustensile, en la el aluga, elle n'aura que son loug d'huile, autrement dit, elle ne sera accompagnée que d'un seul loug d'huile. Shenemar, car le pasouk dit, il s'agit toujours du même pasouk, il interprète plutôt la fin du pasouk, qui dit, le mincha velog shamen, pour l'offrande et un loug d'huile. Sous-entendu, pour une offrande, peu importe sa taille, elle ne sera accompagnée que d'un seul loug d'huile. Alors la Gemara demande, Rabbi Nechemia, Rabbi Eliezer ben Yaakov, et selon l'opinion de Rabbi Nechemia et de Rabbi Eliezer ben Yaakov, Hay Isaron Balul Velug, etc. Mayavdele. Que font-ils avec le début du pasouk qui dit et un Isaron de fleurs de farine mélangées et un loug? Qu'en font-ils? Que font-ils donc avec le début du pasouk? Magma répond, Hahu le gouffé. Celui-ci, donc ce passage du pasouk, nous l'avons besoin pour ce qui est écrit des Kama Achmana, car c'est cela que la Torah veut dire, Laite Chadisaron, que pour accompagner son sacrifice d'un mouton, il devra emmener un Isaron de farine mélangé avec de l'huile pour son offrande. Donc finalement, ce passage n'est pas en plus. Nous ne pouvons pas déduire de là que pour chaque Isaron, il faudra un loug d'huile. De Idach et l'autre, c'est-à-dire les Chachamim, répondent, le gouffé, l'otsarich. Pour ce qui est écrit dans le pasouk, nous ne l'avons pas besoin. Mi de galera chamana gabe metzora, puisque la Torah a dévoilé au sujet du lépreux riche. Shlosha korbanot, qu'il doit offrir trois sacrifices, un korbanola, un korban chatat et un korban hacham, ve shlosha esronot, et qui sont accompagnés de trois isaron de farine. Hachad echad korban, ici où il n'offre qu'un seul sacrifice animal, le mouton comme korban hacham. En effet, le korban ola et le korban chatat seront des oiseaux, comme le pasouk le dit. Chad isaron, il est évident que ce sacrifice unique nécessitera d'être accompagné d'un isaron de farine. Donc, le passage du début du pasouk est en plus pour nous enseigner que pour chaque isaron de farine, il faudra un loug d'huile. Veidach et l'autre, c'est-à-dire Rabbi Nechemia et Rabbi Eliezer ben Yaakov répondent là-dessus. Itztarich, nous avons besoin quand même du pasouk pour enseigner ce qui est écrit. Salkadata chamina, on aurait pu penser dire Ho'il vechas rachamana aleh latuye bedalut, puisque la Torah a eu pitié du lépreux pauvre en diminuant la nature de ses sacrifices. En effet, au lieu d'un mouton comme korbanola et d'une brebis comme korban chatat, il se contente d'offrir deux oiseaux. Emma, on aurait dit aussi, nous lisons selon la Shitam Kubetzet, l'olibaye mincha klal, qu'il n'aura même pas besoin d'une offrande à base de farine pour accompagner le sacrifice du korban hacham qui est un mouton. C'est pour cela que le pasouk a besoin de le préciser. Donc le début du passage n'est pas en plus, ce n'est que la fin du passage, le mincha velog shemen, qui sont en plus. Donc cette juxtaposition du terme le mincha avec log shemen, pour nous enseigner que peu importe la taille de l'offrande, elle sera accompagnée d'un seul loug d'huile. Veidach et les autres, les chachamim répondent là-dessus, les gamre lo ashkechan. Nous n'avons pas trouvé que dans le cas d'un pauvre, la Torah a annulé entièrement un sacrifice. C'est-à-dire, il est vrai que la Torah a réduit la nature de certains sacrifices, mais ne les a pas annulés entièrement. Par conséquent, s'il ne reste qu'un seul animal à offrir comme sacrifice, il est évident que celui-ci sera accompagné d'une offrande à base de farine. Donc, le début du pasouk est en plus pour nous enseigner que pour chaque isaron de farine, il faudra un loug d'huile. La Gemara demande, Rabbanan, et selon l'opinion des Chachamim, Hay le mincha velog shemen may avdele, que font-ils avec la fin du pasouk pour une offrande et un loug d'huile? Donc, que font-ils avec cette juxtaposition du terme le mincha avec l'expression log shemen? La Gemara répond, Hahu, ce passage, nous l'avons besoin pour la chose suivante, le mitnadev mincha, pour celui qui s'engage à offrir une offrande à base de farine, chez loifrot midavar ataun lug, qu'il ne diminue pas, donc qu'il n'offre pas moins qu'une quantité de farine qui nécessite d'être accompagnée d'un loug d'huile, ou mainihu, et quelle est cette quantité qui nécessite un loug d'huile, isaron, il s'agit d'un isaron de farine. Autrement dit, celui qui s'engage à offrir une offrande sans en préciser la quantité, il devra offrir un minimum d'un isaron de farine qui lui, obligatoirement, est accompagné d'un loug d'huile. Veidach et les autres, donc Rabbi Nechemia et Rabbi Eliezer ben Yaakov, Tarteh Shmat Mina, disent que nous pouvons apprendre ces deux choses du même passage. Donc, qu'il doit offrir un minimum un isaron de farine qui est obligatoirement accompagné d'un loug d'huile. Mais aussi, nous apprenons que peu importe la taille de l'offrande, elle sera toujours accompagnée d'un loug d'huile unique. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit, Shisha la part, il faut 6 loups d'huile ou de vin pour accompagner le sacrifice d'un taureau, Arba'a la Haïl, et une quantité de 4 loups d'huile et de vin pour accompagner le sacrifice d'un bélier, Shlosha la Keves, et une quantité de 3 loups d'huile et de vin pour accompagner le sacrifice d'un mouton. La Gemara demande, Menalan, d'où le sait-on? La Gemara répond, Dirtiv, car le Passouk dit dans Bamidbar Kafret concernant l'offrande et les libations qui accompagnent les différents sacrifices, Veniskehem Chatsi Hahin Yihye la part. Et leur libation, donc de vin, sera une quantité d'un demi-hin pour le taureau. Hin Tresar Lugé Havian, la mesure hin contient 12 lougs, d'irtiv car le pasuk dit dans Shemot Lamed concernant l'huile d'onction, Shemen Zait Hin, une quantité d'un hin d'huile d'olive, urtiv, il est écrit toujours dans le même paragraphe, Shemen Mishrat Kodesh Yihye Ze Li Ledorotechem. Et ce sera pour moi une huile d'onction sacrée pour vos générations, donc pour les générations à venir. Ze, le terme Ze, celui-ci, Begimatria Tresar Havian, correspond à la valeur numérique de 12. Donc nous voyons que cette quantité d'huile correspond à 12. La plus petite mesure qui existe dans la Torah est celle d'un loug. Donc nous pouvons comprendre qu'il y avait 12 lougs d'huile d'olive qui correspond à la mesure d'un hin. Donc lorsque la Torah parle d'un demi-hin pour le taureau, il s'agit donc d'une quantité de 6 lougs. Et lorsque la Torah parle d'un tiers de lougs pour le bélier, il s'agit donc de 4 lougs. Et lorsque la Torah parle d'un quart de hin pour le mouton, il s'agit donc d'une quantité de 3 lougs. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Shlosha omertza lemenorah chatzi loug lecholner ». Une quantité de 3 lougs et demi d'huile était utilisée pour le candélabre, à raison d'un demi-loug par lampe. La Gemara demande « Mena hanemile, d'où sait-on ces choses-ci ?» La Gemara répond « Etanu rabanan, car nos chachamim ont enseigné dans une braïta. » Lorsque le pasuk dit dans Shemot Kavzaïn, concernant le candélabre, mais Erevat Boker, elle restera allumée du soir jusqu'au matin. Nous apprenons de là. Tenlah Midata, il faut fixer pour elle une mesure, Shetehe Doleket Veolechet, mais Erevat Boker, qu'elle reste allumée du soir jusqu'au matin. Davar Acher, autre chose que nous apprenons de ce pasuk, mais Erevat Boker, lorsque le pasuk dit du soir jusqu'au matin, Enlecha Avoda Shekshera, mais Erevat Boker, il n'y a pas de service qui est valable du soir jusqu'au matin, donc après le coucher du soleil, et la Zubilvad, que celle-ci, que l'allumage du candélabre. De là, nous apprenons que c'est le dernier service de la journée effectué dans le sanctuaire. Alors, la Braïta reprend la première interprétation qui dit qu'il faut fixer une mesure pour que les lampes restent allumées du soir jusqu'au matin. Veshiaru Chachamim, et les Chachamim ont évalué Chatzilug, qu'une quantité d'un demi-loug d'huile, mais Urta Tsafra suffit pour que les lampes restent allumées du soir jusqu'au matin. Ikade Amre, il y a une version qui dit « Milemala lemata shiaru ». Ils ont évalué de haut en bas. Autrement dit, ils ont commencé par mettre une quantité plus grande, par exemple d'un loug d'huile dans les lampes. Ils ont vu qu'il en restait le matin. Ils ont diminué petit à petit jusqu'à ce qu'ils ont pu déterminer qu'une quantité d'un demi-loug suffit pour que les lampes brûlent du soir jusqu'au matin, même pendant les longues nuits d'hiver. Beika de Amré, il y en a d'autres qui disent, donc une deuxième version qui dit, Mimata lemala shiaru, ils ont évalué de bas en haut. C'est-à-dire au départ, ils ont mis une plus petite quantité, par exemple d'un quart de loug. Ils ont vu que celle-ci ne suffisait pas, les lampes s'éteignaient au milieu de la nuit. Ils ont donc ajouté petit à petit, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à déterminer que la quantité d'un demi-loug suffit pour que les lampes brûlent du soir jusqu'au matin. La Gemara explique la raison de cette discussion. Mande amar mimata lemala shiaru. Ceux qui disent que les Chachamim ont évalué de bas en haut, donc à partir d'une petite quantité jusqu'à arriver à la quantité d'un demi-loug, c'est parce que la Torah chassal mamonan chez l'Israël, c'est que les Chachamim savent que la Torah se soucie de préserver l'argent des Bnei Israël. Ils ont donc commencé par une petite quantité, et ils ont ajouté petit à petit jusqu'à arriver à la quantité d'un demi-loug. Oumande amar mi mala le matashiaru, et selon l'avis qui dit qu'ils ont évalué de haut en bas, donc à partir d'une quantité plus grande jusqu'à arriver à la quantité d'un demi-loug, c'est parce que les Chachamim se sont dit « En aniyut bimkom ashirut » Il n'y a pas de pauvreté là où il y a la richesse. C'est-à-dire, puisque dans le sanctuaire il y a la richesse, il valait mieux prendre le risque qu'on doive jeter l'huile qui reste au matin que de prendre le risque que les lampes s'éteignent au milieu de la nuit. Nouvelle Mishnah. Nous verrons ici les lois concernant les offrandes et les libations qui accompagnent les sacrifices. Alors la Mishnah dit, « Me'arvin niske parim beniske elim » Il est permis de mélanger les libations qui accompagnent les taureaux avec ceux qui accompagnent les béliers. En fait, le terme « nesachim » peut vouloir dire soit les libations de vin, soit l'offrande de farine mélangée avec l'huile qui accompagne ces sacrifices. Au départ, nous comprenons qu'il s'agit de l'offrande. Donc il est permis de mélanger l'offrande qui accompagne le sacrifice des taureaux avec ceux qui accompagnent les sacrifices de bélier, car dans ces deux offrandes, il y a la même proportion d'huile par rapport à la farine. En effet, pour les taureaux, il y a 3 issaron de farine pour 6 louks d'huile, donc 2 louks d'huile par issaron. Pour les béliers, il y a 2 issaron pour 4 louks d'huile, donc aussi 1 issaron pour 2 louks d'huile. Il est donc permis de les mélanger pour les offrir ensemble. Miske kvasim, beniske kvasim. Il est permis de mélanger les offrandes qui accompagnent les moutons avec une autre offrande qui accompagne d'autres moutons, car il s'agit du même type d'offrande. Shel yachid beshel tzibur, il est permis de mélanger les offrandes qui accompagnent les sacrifices provenant d'un particulier, beshel tzibur, avec ceux qui accompagnent les sacrifices publics, s'il s'agit du même type de sacrifice, et donc où il y a la même proportion d'huile et de farine. Donc soit s'il s'agit de moutons, ou même s'il s'agit de taureaux et de béliers.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Petet Amud Bet, Shel Yom Beshel Emesh. Il est permis de mélanger les offrandes qui accompagnent les sacrifices d'aujourd'hui avec ceux qui accompagnent les sacrifices de la veille. En effet, il est possible d'offrir un sacrifice dont l'offrande qui l'accompagne sera offerte le lendemain ou plusieurs jours après. Et ce, toujours s'il s'agit du même type d'offrande comme nous l'avons expliqué. Aval, el mervin niske kvasim beniske parim beilim, mais il est interdit de mélanger les offrandes qui accompagnent les moutons avec ceux qui accompagnent les taureaux ou les béliers, car, comme nous l'avons vu, il n'y a pas la même proportion d'huile par rapport à la farine, car pour le mouton, il y a un issaron d'huile accompagné de 3 louks d'huile. Donc, il y a un issaron pour 3 louks, tandis que pour les taureaux et les béliers, comme nous l'avons expliqué, il y a une proportion de 2 louks d'huile pour un issaron de farine. Vim balelan elu bifne atzmam veelu bifne atzmam. Mais s'il a mélangé cela séparément et cela séparément, c'est-à-dire d'abord il a pétri l'offrande qui accompagne le mouton séparément et l'offrande qui accompagne le taureau ou le bélier séparément, venitarvu, puis ils se sont mélangés par la suite, ksherim, ils seront valables, on pourra les offrir sur l'autel. Im adchelo balal, mais s'ils se sont mélangés avant d'avoir pétri la pâte, pasoul, l'offrande est invalidée, étant donné que la proportion d'huile et de farine dans ce mélange ne correspond ni à l'offrande qui accompagne les taureaux et les béliers, ni à celle qui accompagne les moutons. Hakeves habaima omer, le mouton qui accompagne l'offrande publique du deuxième jour de Pessah, afalpi sheminchato kfula, bien que son offrande soit double par rapport à la normale, en effet, comme le pasouk le dit dans Vaikra Kavgimel, que ce mouton est accompagné de 2 issaron de farine, lo hayu nesachav kfulim, mais ses libations, donc les liquides qui accompagnent cette offrande, ne sont pas doublés. Donc il y aura 3 louks d'huile pour ces 2 issaron, et aussi 3 louks de vin pour les libations. Nous avons vu dans la Mishnah, telle que nous l'avons comprise, qu'il est permis de mélanger les offrandes qui accompagnent les sacrifices, à la condition que les proportions de l'huile et de la farine dans ces offrandes est identique. La Gemara demande, Veraminhu, on a opposé à cela une braïta qui interprète le pasouk dans Vaikra Gimel concernant l'offrande du Korban Shlamim. Le pasouk dit, Vehiktiro, et il l'offrira. Le pasouk s'exprime au singulier pour nous enseigner, Shelo Yarev Chalavim Bechalavim, qu'il est interdit de mélanger des graisses provenant d'un sacrifice avec les graisses provenant d'un autre sacrifice. Donc, chaque sacrifice doit être offert sur l'autel séparément. Il en est donc de même pour les offrandes qui accompagnent les sacrifices, qu'on ne peut pas mélanger, même si les proportions d'huile et de farine dans ces offrandes sont identiques. L'Agma répond, Amar Rabbi Yochanan, Im nitarvu ka'amar. Ce que la Mishnah veut dire, c'est que si ces offrandes se sont mélangées, il est possible de les offrir sur l'autel, elles ne sont pas invalidées, étant donné que les proportions d'huile et de farine dans ces offrandes est identique. Mais a priori, il est interdit de mélanger ces offrandes, étant donné que chaque offrande doit être offerte séparément, comme nous l'avons vu dans la Braïta. La Gemara demande, Yahi, si c'est ainsi, si c'est cela que la Mishnah voulait dire. Lorsque la Mishnah poursuit en disant, Ve'en marvin niske kvasim beniske parim ve'elim, il est interdit de mélanger les offrandes qui accompagnent les moutons avec ceux qui accompagnent les taureaux ou les béliers. Ce que la Mishnah veut dire, va filu nitarvu namilo, que même s'ils se sont mélangés, on ne peut pas le faire, autrement dit, ces offrandes sont invalidées. Beha mide katanesefa, pourtant, du fait qu'il est enseigné à la fin de la Mishnah, donc dans la suite, balelan elubifne atzman ve elubifne atzman ve nitarvu ksherim, s'il a pétri celle-ci séparément et les autres séparément, donc s'il a pétri chacune de ces offrandes séparément et ils se sont mélangés par la suite, ils sont valables, on peut les offrir sur l'autel. Michlal, nous pouvons donc déduire des rechats que le début de la Mishnah, le Khatrila Kamar, parle de mélanger a priori. Car comme l'explique le Chok Natan, si la Mishnah voulait dire que si on a mélangé les offrandes qui accompagnent les taureaux et les béliers, ils sont valables, et par conséquent, la suite de la Mishnah veut dire que si on mélange les offrandes qui accompagnent les moutons et les taureaux, ces offrandes sont invalidées, la Mishnah n'avait pas besoin de conclure que s'il a mélangé ces deux offrandes avant de les avoir pétries séparément, ces offrandes sont invalidées. Forcément, la Mishnah voulait dire donc qu'il est permis de mélanger les offrandes qui accompagnent les taureaux et les béliers. Puis, la deuxième partie de la Mishnah veut dire qu'il est interdit de mélanger les offrandes qui accompagnent les moutons et les taureaux. Mais en fait, si on l'a fait, l'offrande est valable. Et pour ne pas qu'on se trompe, la Mishnah a dû préciser qu'effectivement, ils sont valables comme nous le voyons. Donc, la question revient. Comment se fait-il qu'il soit permis de mélanger les offrandes qui accompagnent les taureaux et les béliers, alors qu'il est interdit de mélanger tout type de sacrifice? La Gemara répond à Amar Abaye, Hachika Amar, c'est cela que la Mishnah a voulu dire. Mais Arvin Yenan, il est permis de mélanger le vin des libations qui accompagnent le sacrifice de taureaux et de béliers, Im Nitarev Saltan Veshamnan, si on a déjà mélangé par erreur leur farine et leur huile, donc leur offrande. Car s'il est interdit de mélanger les offrandes qui sont destinées à être brûlées sur l'autel, il n'y a pas d'interdiction concernant le vin. Cependant, puisque si on permet de mélanger le vin, il y a le risque qu'on mélange aussi les offrandes, il est donc permis de mélanger le vin, des libations de différents sacrifices, uniquement si les offrandes ont déjà été mélangées. Mais s'il s'agit du vin des libations qui accompagnent le sacrifice de moutons et de taureaux, même si on a mélangé leurs offrandes, il est interdit de mélanger le vin, car, comme nous le voyons dans la Mishnah, si ces offrandes ont été mélangées avant d'avoir été pétries séparément, l'offrande est invalidée, il faut donc en faire une nouvelle. On interdit donc de mélanger le vin, car il y a le risque qu'on mélange les offrandes. Cependant, si les offrandes de ces deux sacrifices ont été pétries séparément, puis ils ont été mélangées, et l'offrande est donc valable, il sera même permis de mélanger le vin. La Gemara demande, Veyenan lechatrilalo, et le vin des libations qui accompagne les sacrifices, il est interdit de le mélanger a priori, c'est-à-dire si l'offrande n'a pas déjà été mélangée. Vehatania, pourtant, il est enseigné dans une braïta qui complète la Mishnah lorsqu'elle dit qu'il est interdit de mélanger les offrandes qui accompagnent les moutons avec celles qui accompagnent les taureaux ou les béliers. La braïta poursuit, « Bam et dvarim amourim, quand ces choses sont dites, besolet veshemen, c'est uniquement concernant la farine et l'huile. Il est donc interdit de les mélanger, car leurs proportions sont différentes, comme nous l'avons expliqué dans la Mishnah, aval yaïn, mais en ce qui concerne le vin, des libations de ces différents types de sacrifices, mais arvin, il est permis de le mélanger. Nous voyons donc clairement dans la braïta qu'il est permis, en toutes circonstances, de mélanger le vin. La Gemara répond, selon le Yashar Vatov, nous sautons le terme Ela, car il semble que la Gemara ne se ravise pas, selon l'interprétation que nous venons de donner. Alors, Amar Abaye, Abaye dit, pour répondre, Harika Amar, c'est cela que la Braïta a voulu dire. Hecha dehuktar saltan veshamnan, lorsque la farine et l'huile de l'offrande qui accompagne ces différents sacrifices ont été offerts sur l'autel, même séparément, donc comme il le faut, mais Arvin Yain lechatrila, il sera permis de mélanger le vin a priori. C'est-à-dire, la Braïta veut dire ainsi, quand ces choses sont dites qu'il est interdit de mélanger le vin, c'est uniquement lorsque la farine et l'huile de l'offrande existent encore, il y a donc le risque qu'on les mélange par erreur. Mais s'ils ont déjà été offerts, il sera permis de mélanger le vin des libations de ces différents sacrifices. Hecha de lohuktar, mais lorsque les offrandes de ces sacrifices n'ont pas été offertes sur l'autel, et c'est de ce cas que parle la Mishnah, imitarev soltan veshimnan, si leur farine et l'huile de leur offrande ont été mélangées, Marbin Nami Yenan, il sera permis de mélanger même leur vin, si toutefois l'offrande est valable. Donc soit s'il s'agit de l'offrande qui accompagne le sacrifice d'un taureau et d'un bélier, ou bien même s'il s'agit de ceux qui accompagnent le sacrifice d'un mouton et d'un taureau, mais qui ont été pétris séparément, et sinon, si les offrandes n'ont pas été mélangées, ou bien dans le cas où lorsque l'offrande est mélangée, elle est invalidée, par exemple, dans le cas d'offrandes qui accompagnent le sacrifice d'un mouton et d'un taureau, mais qui n'ont pas été pétris séparément auparavant, dans cette situation, en mervim, en toutes circonstances, il sera interdit de mélanger même le vin des libations, dilma ate liarouvé, solet, veshem el khatrila. Cela, les chachamim ont interdit de le faire, de peur qu'on vienne à mélanger la farine et l'huile des offrandes qui accompagnent ces sacrifices, alors qu'il est interdit de le faire, comme nous l'avons vu précédemment dans la Braïta. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Keves Abba et Mahomer, en ce qui concerne le mouton qui accompagne l'offrande publique du deuxième jour de Pessah, bien que son offrande est doublée, c'est-à-dire la farine de son offrande est doublée, il y a en effet deux hissarons de farine, mais l'huile et le vin qui accompagnent cette offrande ou ce sacrifice ne sont pas doublés. Donc ces deux hissarons d'huile seront pétris avec trois louks d'huile et il y aura uniquement trois louks de vin pour les libations. » Alors, la Gemara dit là-dessus, Tanou Rabbanan ou Chachamim enseigné dans la Braïta, qui interprète le pasouk dans Vaïka Kav Gimel, concernant l'offrande qui accompagne le sacrifice du mouton, qui accompagne l'offrande publique du deuxième jour de l'Omer. Alors, le pasouk dit, Umin Chato, Shne Esonim. Et son offrande, donc, qui accompagne le sacrifice de ce mouton, est de deux hissarons de farine. L'imed al-Keves Abay Mahomer, ce pasouk enseigne, en ce qui concerne le mouton qui accompagne l'offrande publique du deuxième jour de Pessah, chez Minchatok Fula, que son offrande est doublée, donc la quantité de farine de son offrande est doublée, il y aura deux hissaron. Yachol, Keshem, chez Minchatok Fula, serait-il possible de dire que de même que son offrande est doublée, car Yeno Kaful, ainsi, la quantité de vin de ses libations est aussi doublée, donc il devra y avoir six loug. Là-bas est ta réponse, Talmud Lomar, c'est pour cela que le Pasuk dit, Venisko Yain, et pour ces libations de vin, Revi'itain, un quart de hin, soit trois lougs. Donc le pasouk dit clairement que le vin pour les libations qui accompagnent ce sacrifice n'est pas doublé, mais reste donc la quantité de trois lougs. Yachol lo yehye yeno kaful, serait-il possible de dire qu'il est vrai que son vin ne sera pas doublé, chez enonivla lim minchato, car celui-ci n'est pas pétri avec son offrande, aval yehye shamno kaful, mais peut-être que l'huile qui accompagne ce sacrifice sera doublé chez Nivla le Minchato, car l'huile est pétrie avec son offrande, et du fait que l'offrande est doublée, l'huile le sera aussi, Talmud Lomar. C'est pour cela que le Pasouk dit, il s'agit toujours du même Pasouk, Venisko, et ses libations, au singulier, Kol Nesachav lo Yehu et la Revit. Tout le nécessaire pour ses libations ne sera qu'un quart de hin, soit trois lougs. La Gemara demande, mais et Talmuda, comment est-ce qu'on apprend cela du Pasouk, puisque le Pasouk parle des libations de vin et ne parle pas d'huile? L'Agma répond à Amar Belazar, Ktiv Veniska. En fait, le Pasouk dit, et ses libations au féminin. En effet, lorsque le Pasouk dit Venisko Yain, ce terme Venisko est écrit avec un He et non pas avec un Vav. On peut donc le lire Veniska au féminin et qu'il se rapporterait donc à l'offrande, Vekarinan Venisko, tandis que nous lisons effectivement Venisko, donc, et ses libations au masculin, qui se rapporte au sacrifice. Ketsad, comment est-ce qu'on accomplit ce pasouk? Comment interpréter ce hé? Puisque lorsque le pasouk parle de libation, celle-ci se rapporte au sacrifice. Le pasouk aurait dû s'exprimer donc au masculin comme nous le lisons, et non pas en féminin. Alors l'Agma répond que le pasouk veut dire Niskah de Mincha, les libations qui accompagnent l'offrande, donc l'huile qui accompagne l'offrande, Kenisko de Yaïn, aura la même quantité que les libations de vin qui accompagnent le sacrifice. Ma yayin revit, de même que les libations de vin sont d'une quantité d'un quart de hin, soit trois lougs. Afshemen, ainsi aussi l'huile qui est pétrie dans l'offrande, namir revit, il y aura aussi un quart de hin, soit trois lougs. Amar Rabbi Yochanan, Hacham Metzora Shecharto Shelo Lishmo, le korban Hacham du lépreux qu'il doit offrir lorsqu'il est guéri de sa lèpre pour sa purification, qu'il a sacrifié au nom d'un autre sacrifice, comme il est enseigné au début de Maseret Zvachim, ce Korban Hacham est valable, il faudra donc continuer à l'offrir, mais son propriétaire ne s'est pas rendu quitte de l'obligation d'offrir son sacrifice, il devra donc en offrir un autre pour le remplacer. En lecture, Rabbi Yochanan dit, Taoun Nesachim, nécessite d'être accompagné de libations, comme s'il s'agissait du Korban Hasham, du lépreux. Chez Im, Iata Omerken, car si tu ne dis pas ainsi, donc si tu dis que ce sacrifice ne nécessite plus d'être accompagné de libations, Pesalto, tu l'as invalidé. Car comme l'explique le Keren Ora, si tu dis que ce sacrifice ne nécessite plus de libations, car son statut a changé et ce n'est plus le Korban Hasham du lépreux, par conséquent, il ne doit plus être accompagné de libation. Il est invalidé, car en l'ayant sacrifié au nom d'un autre sacrifice, sa nature n'a pas changé. Ce n'est pas devenu, par exemple, un Korban Ola. Au maximum, tu pourrais dire qu'il s'agirait d'un simple Korban Hasham, mais celui-ci ne peut pas être offert volontairement en toutes circonstances. Ce n'est que lorsqu'une personne a l'obligation de l'offrir qu'il peut l'offrir. Donc si tu dis que son statut a changé et que ce n'est plus le Korban Hasham du lépreux, le sacrifice est en fait invalidé. Matkifla, Rav Menashe Abargada et la Meata, si c'est ainsi, Keves Haba Ima Omer, en ce qui concerne le mouton qui accompagne l'offrande publique du deuxième jour de Pessah, chez Charto Shelolishmo, qu'il a sacrifié au nom d'un autre sacrifice, Tehe Minchato Kfula, tu n'as qu'à dire aussi que son offrande doit être doublée, comme s'il s'agissait du mouton qui accompagne l'offrande publique du deuxième jour de Pessah, chez Im Yatan Merken, car si tu ne dis pas ainsi que ce mouton ne nécessite plus une offrande doublée, Pesalto, tu l'as invalidé, car en sacrifiant un sacrifice au nom d'un autre sacrifice, on ne peut pas changer sa nature. Betamid Shecharto Shelolishmo, et aussi le sacrifice journalier du matin, qu'il a sacrifié au nom d'un autre sacrifice, Yehetaun Shnekzerim Bekoan Echad, devrait aussi nécessiter d'être accompagné de deux bûches de bois portées par un seul Kohen, comme s'il s'agissait du sacrifice journalier du matin. Car comme explique la Gemara dans Maseret Yuma Daf Kaf Vav Amud Bet, le sacrifice journalier du matin est accompagné de deux bûches de bois portées par un seul Kohen. Sheim Iata Omerken, car si tu ne dis pas ainsi, si tu dis que ce sacrifice ne nécessite plus d'être accompagné de deux bûches de bois portées par un seul Kohen, Pesalto, tu l'as invalidé. Car même en ayant sacrifié le sacrifice au nom d'un autre sacrifice, on ne peut pas changer sa nature. Donc en décidant qu'il n'est pas nécessaire de l'accompagner de deux bûches de bois portées par un Kohen, on décide en fait que sa nature a changé, il est donc invalidé. Et aussi, Vetamid Shel Ben Arbaim Shecharto Shelolishmo, le sacrifice journalier de l'après-midi, qu'il a sacrifié au nom d'un autre sacrifice, Yehetaun Shnekzirim Beshne Kohanim, devrait nécessiter d'être accompagné de deux bûches de bois portées, cette fois par deux Kohanim, comme l'Agmara l'explique dans Maseret Yuma Daf Kavav Amud Bet. Chez Imiata Omerken, car si tu ne dis pas ainsi, tu dis que ce sacrifice ne nécessite plus d'être accompagné de deux bûches de bois portées par deux Kohanim, Pesalto, tu l'as invalidé. Car comme nous l'avons dit, en sacrifiant un sacrifice au nom d'un autre sacrifice, on ne peut pas changer sa nature. Nous lisons selon la Shita Mkubet 7, Bechitema Inachinami, et si tu veux me répondre, effectivement c'est vrai que la nature des sacrifices n'a pas changé, donc lorsqu'il s'agit du mouton qui accompagne l'offrande publique du deuxième jour de l'Omer, même lorsqu'il a été sacrifié au nom d'un autre sacrifice, son offrande est doublée, et en ce qui concerne les sacrifices journaliers, s'ils ont été sacrifiés au nom d'un autre sacrifice, lorsqu'il s'agit de celui du matin, il devra être accompagné de deux bûches de bois portées par un seul Kohen, et s'il s'agit de celui de l'après-midi, il devra être accompagné de deux bûches de bois portées par deux Kohanim. Ha lo chashiv lehu, pourtant, Rabbi Yochanan ne les a pas comptés, il ne les a pas mentionnés. Ragma répond, et là, Amar Abaye, plutôt des Abaye. Effectivement, c'est vrai donc qu'en toutes circonstances, lorsqu'on sacrifie un sacrifice au nom d'un autre sacrifice, sa nature n'a pas changé. Et donc, les lois qui s'appliquent pour lui devront être appliquées même après qu'il a été sacrifié au nom d'un autre sacrifice. Donc, comme le Korban Hasham, il devra toujours être accompagné de libations. S'il s'agit du mouton qui accompagne l'offrande publique du deuxième jour de Pessah, son offrande devra être doublée. Et s'il s'agit du sacrifice journalier, s'il s'agit de celui du matin, il devra être accompagné de deux bûches de bois portées par un seul Kohen. S'il s'agit de celui de l'après-midi, il devra être accompagné de deux bûches de bois portées par deux Kohanim. La raison pour laquelle Rabbi Yochanan n'a parlé que du Korban Hasham du lépreux, c'est parce que Chada Minayonakat, il n'en a mentionné qu'un seul de ces cas, mais en fait de là nous pouvons apprendre et étendre cette loi aux autres sacrifices. Rabbi Abba Amar, il répond autrement. Bishlama Hanar, on comprend bien encore cela en ce qui concerne le mouton qui accompagne l'offrande publique du deuxième jour de Pessah, ou bien en ce qui concerne le sacrifice journalier, Olot Ninhu, il s'agit de Korban Ola.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.